les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Sabrina Robert-Quende, professeure de droit public à l'Université du Mans, nous propose une lecture des enjeux de la lutte contre les changements climatiques au regard du droit international. Cinquième épisode. Changement climatique, quelle responsabilité ?
Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Amicus Radio. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette émission pour aborder la question de la responsabilité climatique. Alors, il s'agit ici de se demander qui est responsable, au sens juridique du terme, des changements climatiques, sur le fondement de quelles règles juridiques il est possible d'engager un recours contre une personne pour son inaction climatique, ou encore, devant quel type de juridiction une telle action peut être engagée. Alors ici, dans la continuité des thématiques précédentes, je vais me concentrer sur la responsabilité climatique des États. À leur sujet, le premier raisonnement que l'on peut avoir, c'est le suivant. Les États ont pris des engagements juridiques sur la scène internationale, dans le cadre de la Convention cadre de 1992, dans le cadre du protocole de Kyoto ou encore dans le cadre de l'accord de Paris. Et si les États ne respectent pas ces engagements, il est possible d'engager leur responsabilité internationale qui se définit, en droit international, comme tout manquement à une obligation internationale. Et enfin, je poursuis le raisonnement, si l'on s'engage sur la voie de la responsabilité internationale de l'État, la logique veut que celle-ci puisse être engagée par un ou plusieurs autres États devant une juridiction internationale, comme la Cour internationale de justice, par exemple. En théorie, ce scénario est parfaitement possible. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévoit d'ailleurs la possibilité pour les parties contractantes de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice pour les questions d'interprétation et d'application de la Convention. Et l'accord de Paris prévoit la même possibilité. Mais dans les faits, l'hypothèse d'un procès climatique interétatique devant la Cour internationale de justice ou même devant une autre juridiction internationale semble assez peu probable. La raison principale, c'est que les États sont extrêmement réticents à l'idée d'engager des actions judiciaires environnementales contre leurs pairs. Alors en réalité, dans le passé, il y a eu quelques tentatives pour saisir la Cour internationale de justice pour des actions climatiques. En 2002, par exemple, les Tuvalu, qui sont un petit État insulaire du Pacifique Sud, petit État qui est particulièrement exposé aux risques liés à la montée des eaux, les Tuvalu ont fait connaître leur intention d'engager une action contre l'Australie. Mais cet État a été dissuadé de poursuivre au motif qu'une telle action pouvait compromettre le déroulement des négociations climatiques qui étaient alors en cours. Et comme on l'a vu précédemment, le régime juridique international du climat, tel qu'il est mis en œuvre dans le cadre de la Convention cadre, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, privilégie vraiment les instruments incitatifs plutôt que le recours à la voie juridictionnelle et aux sanctions en cas de défaillance d'une partie contractante. Alors cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun moyen d'engager la responsabilité des États qui ne respecteraient pas leurs engagements climatiques. L'actualité récente le montre. On parle de plus en plus des procès climatiques qui sont intentés par la société civile contre les États. En France, c'est l'affaire du siècle, engagée au début de l'année 2019, qui a attiré l'attention sur ce phénomène. Mais en réalité, les procès qui visent à dénoncer l'inaction climatique des pouvoirs publics existent depuis de nombreuses années dans certains États, et notamment aux États-Unis et en Australie, où ils sont les plus nombreux. Et ces procès climatiques, ils sont extrêmement intéressants. Ils tendent à redéfinir totalement la responsabilité climatique des États. Alors premièrement, ces actions, elles sont intentées par la société civile entendue au sens large. Dans l'affaire du siècle, ce sont 4 ONG françaises de défense de l'environnement qui sont à l'origine de la plainte. Toujours en France, dans l'affaire Grande-Synthe, c'est le maire d'une commune du Nord qui voit le territoire de sa commune menacé par l'érosion des sols qui engage une action judiciaire contre l'État. Dans une affaire Juliana, qui est en cours devant les tribunaux américains, c'est une vingtaine de jeunes, certains sont encore des enfants, qui entend engager la responsabilité des États-Unis pour leur inaction climatique. C'est la première caractéristique. Deuxièmement, la plupart de ces actions sont engagés devant le juge interne, le juge national. Alors en réalité, il y a quelques plaintes devant des organes de jugement internationaux. Par exemple, en mai 2019, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a été saisi d'une plainte climatique contre l'Australie par un groupe d'aborigènes. Mais pour l'essentiel, les requérants s'en remettent aux juges internes. Alors devant ces juges internes, toutes les actions envisagées ne sont pas à proprement parler techniquement des actions en responsabilité. Il s'agit parfois d'actions en contrôle de la légalité des mesures qui sont adoptées par l'État pour satisfaire ses engagements climatiques. Mais dans tous les cas, il est bien question de pointer les manquements des États à leurs obligations climatiques qui causent des dommages à l'environnement et qui causent des préjudices aux requérants. Troisième caractéristique de ces actions climatiques, c'est qu'elles reposent sur des fondements juridiques variés, mais qui tendent tous à consolider l'idée qu'il existe une obligation à la charge de l'État de lutter positivement contre les changements climatiques. Alors cette obligation, elle peut être fondée sur le droit interne. Certaines constitutions nationales, par exemple, contiennent expressément une obligation de lutter contre les changements climatiques. Mais l'obligation de lutter contre les changements climatiques, elle peut aussi être fondée sur le droit international. D'abord, sur les traités de protection des droits de l'homme. On l'a vu, le lien est désormais clairement établi entre la jouissance effective des droits fondamentaux, qui sont consacrés dans les traités de protection des droits de l'homme, comme la Convention européenne des droits de l'homme, et la protection d'un environnement sain. Et dans les procès climatiques, les requérants se fondent souvent sur ces droits de l'homme pour essayer d'engager la responsabilité climatique des États. Ensuite, l'obligation de lutter contre les changements climatiques, telle qu'elle est invoquée devant le juge national, elle peut aussi être fondée sur le droit international du climat. De plus en plus, dans ces procès, les requérants n'hésitent pas à invoquer la Convention cadre des Nations Unies ou l'accord de Paris pour consolider leur argumentaire. Alors ici, se pose la question de l'invocabilité de ces traités devant le juge interne. L'accord de Paris, la Convention cadre, ne créent pas de droit directement au profit des particuliers. Or, c'est un critère essentiel que beaucoup de juges prennent en considération pour décider s'il leur revient ou non de contrôler l'action de l'État au regard des traités internationaux. C'est par exemple la position traditionnelle du Conseil d'État français. Mais on observe aussi que certains juges étrangers adoptent, dans le cadre de ces procès climatiques, une posture beaucoup plus souple et n'hésitent pas à assurer eux-mêmes l'application des traités climatiques. Alors à titre d'exemple, un arrêt extrêmement intéressant de la Cour suprême de Colombie d'avril 2018 peut être cité. Dans cet arrêt, la Cour y affirme que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris participent à la consolidation d'une constitution écologique. Et la Cour se reconnaît le droit de contrôler l'action de l'État au regard de cette constitution écologique. Au final, ces contentieux climatiques, ils brouillent les frontières entre la responsabilité interne et la responsabilité internationale de l'État. Alors que, à la base, traditionnellement, ce sont deux types de responsabilités qui sont distinctes et imperméables l'une par rapport à l'autre. L'arrêt Urganda, qui a été rendu en 2015 par un tribunal de La Haye, c'est un arrêt célèbre dans cette masse des contentieux climatiques. Et c'est un arrêt qui illustre parfaitement cette confusion entre responsabilité interne et responsabilité internationale. Dans cette affaire, la responsabilité des Pays-Bas a été engagée du fait de l'insuffisance de leur politique climatique. Et le tribunal a considéré que l'État n'avait pas respecté l'obligation de diligence qui est posée dans la constitution néerlandaise et qui est consolidée dans les accords internationaux climatiques. Le juge a donc apprécié l'obligation de diligence, c'est-à-dire l'obligation de protéger la population contre les changements climatiques, à la fois par rapport au droit interne et par rapport au droit international. Alors finalement, les chances de succès de ces procès climatiques sont souvent limitées. Il y a de nombreux obstacles procéduraux en termes de charge de la preuve, en termes de recevabilité des requêtes, etc., etc. Mais pour l'heure, ce qu'il faut retenir de ces contentieux climatiques, c'est qu'il y a un véritable mouvement en faveur d'une responsabilisation des États. Et ce qui est remarquable avec ces procès climatiques, c'est que le droit international du climat tient une bonne place dans cette révolution juridique climatique. Voilà pour finir sur cette question de la responsabilité climatique des États et également pour conclure cette émission sur le droit international et les changements climatiques. Beaucoup de choses ont été faites, on l'a vu, mais il reste encore beaucoup de mécanismes juridiques à imaginer, à inventer pour mieux protéger le climat et les droits humains qui en dépendent.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kathy Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.